Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Ah, le cinéma, qu'est-ce que ce serait s'il n'y avait pas la caméra? Ce serait merveilleux, tout simplement, disait l'acteur Rému. Vous n'avez pas saisi? Ah, le cinéma, qu'est-ce que ce serait s'il n'y avait pas la caméra? Ce serait merveilleux, tout simplement. En ces temps difficiles, nous aimerions tous nous lever le matin pour découvrir que la vraie vie est merveilleuse, justement. Rien de mieux, peut-être, que l'art pour nous aider à voir dans nos existences ce que l'on a du mal aujourd'hui à vivre. Du rire, de l'espoir et une porte ouverte sur le ciel. Voilà ce que nous allons nous vous proposer chaque vendredi des semaines qui viennent. Alors bonne séance, à domicile évidemment. Le grand écran, c'est donc l'émission Vivante Église de ce matin, le rendez-vous cinéma de Vivante Église. Nos deux chroniqueurs fidèles au poste et ont bravé tous les dangers. Louis-Marie Soler, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse. Bonjour Louis-Marie.
Bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Et Paul Dima.
Ça m'a impressionné.
Ça vous surprend, ouais. Ouais. Intervenant cinéma pour les Coteaux Pays et Centre Jésus dans les Sud-Ouest.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous.
Voilà, émission cinéma. On va essayer de faire une émission cinéma chaque vendredi à l'occasion de ce temps de confinement. On essaye de prendre des habitudes plus régulières. On adapte nos programmes. Ça sera avec deux ou avec d'autres. Et on va essayer de vous accompagner car on peut encore aller au cinéma au moins chez soi. Et c'est une autre manière de continuer à soutenir aussi le cinéma. Trois films à l'affiche de cette émission. The Party, donc, de Black Edwards. On va dire c'est le film humoristique de la semaine. La belle équipe de Julien Duvivier. Alors là, on était encore sur l'ancienne catégorie, mais on va essayer de choisir des films qui donnent de l'espoir. Mais celui-là, on va dire, n'est pas si triste. Et La messe est finie de Nanni Moretti. C'est donc le chef-d'œuvre spirituel de la semaine. On commence donc avec The Party. On va écouter le début. C'est pas la bande-annonce, Louis-Marie. Peut-être que vous pouvez lancer l'extrait.
C'est au tout début les scènes d'exposition pour qu'on découvre qui est le personnage qu'on va suivre. Et en l'occurrence, il est un petit acteur de seconde zone et on le voit à l'œuvre dans une super production hollywoodienne comme on en faisait à l'époque, c'est-à-dire à la fin des années 60, une histoire d'armée anglaise des Indes qui affronte des rebelles, des brigands, des indépendantistes, on ne sait pas trop, mais peu importe, et il interprète le joueur de Clairon, et le moment où on va le moment qu'on va suivre est celui où, après le coupé du metteur en scène, le metteur en scène prépare une scène ô combien importante dans le film, puisqu'il s'agit de l'explosion du fort britannique, et ils ne peuvent tourner la scène qu'une fois. Et évidemment, le petit acteur indien, incarné par Peter Sellers, va provoquer la catastrophe.
Et c'est le début de toutes les gaffes du film, presque.
You. Yes, you. You get off of my set and get out of my picture. Off. Out. You're through. You're washed up. You're finished. I'll see to it you never make another movie again.
Did that include television, sir?
I'll kill him. I'll kill him.
Vous pouvez peut-être donner la traduction.
Hein, oui, oui.
Ça est. Dis plus jamais, tu sors de ma vie, tu sors de mon film, tu sors du film, tu sors d'Hollywood.
Oui, c'est ça,
et
exactement.
La réplique est...
Et la dernière reprise, même à la télévision.
Alors, il s'agit d'un... comment on prononce son nom?
Oh, c'est très compliqué,
hein,
parce que...
Parce
que dans tout le film, on demande comment il s'appelle et tout le monde écorche son nom et chaque fois, il reprend des personnes. Donc, personne n'arrive.
Un acteur indien, donc on va dire, est engagé par un studio hollywoodien. Bakshi, c'est son nom de famille, semble-t-il, pour interpréter un soldat indigène dans un remake de Gunga Din.
Oui, c'est ça.
Voilà. Faisant preuve d'une terrible maladresse, il a fait exploser un coûteux décor, on a vu ça. Exaspéré, le producteur demande à ce qu'il soit inscrit sur une liste noire, mais... le quiproquo ou le burlesque continue, ce comédien indien se retrouve en fait invité à la soirée annuelle du studio. Louis-Marie, l'histoire.
Ben c'est ça, vous avez tout raconté, c'est le quiproquo.
Après, il y a tout le reste de l'histoire.
Oui, hein. Et après, donc, il arrive là, il est surpris et émerveillé d'être invité à cette soirée et il est évidemment décalé. par rapport
à complètement
à, par rapport à, par rapport à tous les invités, et il a cette façon de communiquer avec les gens, et là où
déjà on peut dire à quoi il ressemble physiquement, parce qu'il est un peu dégingandé, l'air ébahi.
Il est surpris, il est toujours à côté,
un peu ravi, quoi.
Il est toujours à côté, c'est-à-dire que par rapport à la situation, il se gourre tout le temps, il se trompe tout le temps, il veut participer à une conversation, il comprend. Il est témoin d'une première conversation dans cette soirée où les gens éclatent de rire parce qu'il raconte une histoire drôle. Et lui, comme il n'a pas entendu le début, il ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, il comprend qu'il faut agir comme ça. Donc, il s'en va vers un autre groupe de personnes. Mais eux, là, qui parlent de la disparition de quelqu'un. Et en arrivant, il se met à éclater de rire en disant « Ah, elle est excellente !» Parce qu'il veut s'inclure chaque fois dans les conversations, mais chaque fois, il est décalé. Et ce qui est fort dans la mise en scène de Black Edwards, c'est que le spectateur est témoin de tout ce qui se passe. Il est acteur, d'une certaine façon, de tout ce qui se passe. Et il sait, le spectateur, qu'il va y avoir une catastrophe. Donc le spectateur anticipe et se demande ce qui va bien pouvoir arriver.
Alors, Aden, sans nul doute, le sommet de la collaboration explosive entre Black Edwards et Peter Sellers, les Inrecuptibles, un chef-d'œuvre cultissime de la comédie au cinéma et de la pop culture. Paul Dimas, si vous deviez choisir une scène qui vous a bien fait rire, ce serait laquelle ?
Oh, mais c'est très difficile, parce que j'en ris encore, hein, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, mais c'est extraordinaire. C'est à la fois du Buster Keaton, c'est à la fois... de Monsieur Hulot, c'est Chaplin. Le personnage, c'est l'inadapté. C'est-à-dire que on voit venir comme gros comme une maison qu'il va déclencher une catastrophe. Et à chaque fois, c'est le cas. Alors, il y a l'histoire du poulet. Il est à table. Bon, il n'a pas trouvé. Il n'y avait plus de chaise pour lui. Les gens ont été déplacés et tout. Alors, c'est une maison très top niveau hollywoodien. Mais
la piscine à l'intérieur de la
maison. La piscine avec les plateaux qui s'ouvrent, qui se ferment. Alors évidemment, on devine tout de suite qu'il y a des gens qui vont finir dans l'eau, et de façon catastrophique. Et au cours de ce repas là, il a pas de chaise à sa hauteur. Alors on lui met une espèce de petit tabouret et tout. Il a le nez au niveau de son assiette, et en voulant découper son poulet, tchac, le poulet saute sur la chevelure d'une femme avec une espèce
sur de la parure qu'elle est sur
le diadème, voilà. De cette femme. Et alors, il dit au garçon, qui commence déjà à être pas mal enivré, oui, d'aller chercher son poulet. Et quand il prend le poulet, ben, il ramène la perruque avec.
C'est-à-dire que...
La scène des chaussures aussi,
Il provoque tellement de catastrophes que c'est communicatif, en particulier avec ce serveur sur lequel il déteint, oui, qui commence tout à fait la soirée, le serveur dans son travail, et puis qui décide, au fur et à mesure que chaque fois qu'il propose à boire à un invité, il prend un verre sur son plateau et il le boit. Ce qui fait qu'à la fin, le serveur va être complètement sous. Mais ce qui est très fort, c'est que, Paul le disait, c'est le lieu où l'objet le plus anodin devient un spectacle de désolation. Le lieu où l'objet devient quelque chose de cataclysmique. Une chaussure, un pistolet à fléchette, un panneau de télécommande. Le panneau de télécommande, il regarde il comprend pas ce qui se passe. Alors, étant donné qu'il s'ennuie un peu, il essaye de...
Il touche au bouton.
Il touche au bouton, et en fait, en touchant au bouton, il fait partir le bar, il enlève une partie de la salle de séjour, ce qui fait que certains des plats tombent, et puis des gens vont tomber dans la piscine, en fait, puisque la piscine est dessous. C'est à la fois aussi une critique. Oui. Les Inrocs parlaient de pop culture, une critique de la condition sociale et de ce qu'était Hollywood à cette époque-là. Le tape à l'œil, l'artificiel et le producteur vit dans une maison incroyable. Il a des trucs qu'il n'utilise jamais.
Alors dites-nous un mot du réalisateur Black Edwards. On en avait parlé récemment, oui, parce qu'on avait, on va dire, j'allais dire chroniqué, on avait regardé un autre film de lui qui est donc Diamant sur canapé. Il a fait d'autres films, semble-t-il, dont Elle, si j'ai bien compris, qui est une satire du système hollywoodien.
Oui, aussi, qui a moins bien marché. C'est un de ses derniers films, avec à l'époque une actrice qui faisait fantasmer tous les spectateurs et les acteurs aussi, qui s'appelait Beau Derek, qu'on a un peu oublié aussi, qui avait une plastique sculpturale.
Le réalisateur.
C'est Blake Edwards, on en a parlé. Blake Edwards, c'est un spécialiste de ce genre de film et il reste l'inoubliable créateur de La Panthère Rose, avec le même Peter Sellers. Mais à la différence de celui-ci, c'est que dans la Panthère Rose, l'inspecteur Clouseau, qu'incarnait Peter Sellers, c'est un monument de bêtises égocentriques. Hein. Il pense qu'il est génial, alors que c'est un imbécile notoire. Tandis que là, Bakshi...
C'est le même acteur.
Peter Sellers, qui est un extraordinaire comédien, qui a un timing impressionnant. Mais Bakshi, le personnage qu'il interprète dans la partie, lui, est maladroit. C'est un brave mec. Il est sympa. Et on ne peut que l'aimer. Mais dès qu'il fait quelque chose, ça devient une catastrophe.
Pourquoi c'est un film à voir en pareille circonstance pour se redonner un peu de bonne humeur, Paul ?
Parce que c'est à la fois très drôle. C'est à la fois très dénonciateur de comportements apparemment bienveillants, plaisants et tout ça, mais qui cache une hypocrisie, une superficialité terrible. Et lui, dans sa maladresse, il fait exploser tous ces faux-semblants, pour une vérité et un rapport humain très profond, alors que tout le monde est là à fumer son cigare, à faire des ronds de jambes et tout, et ça change rien. Lui va nouer une relation humaine avec une starlette dont le producteur ne rêve que vouloir coucher avec elle.
Qui vient jouer de la guitare.
Et une starlette française.
Française, oui. Et s'instaure entre les deux. Alors, il est toujours maladroit, mais là, il y a un instant de grâce un peu enfantine, mais magnifique, magnifique. Et c'est les deux seuls humains qui se rencontrent. Les autres sont dans la mondanité spectacle.
C'est donc The Party de Blake Edwards, film sorti en 1969. Juste pour finir, Lou Marie, il a été primé, ce film, ou pas ou...
Non, il n'a pas été primé, mais il reste... Un chef-d'œuvre, un film inclassable, oui. Inclassable mais indispensable, et qui rend hommage, je le disais, et il y a quand même, on peut le dire, il y a la starlette française et puis l'autre Cocorico, à part toutes les références à Tati, il y en a une ouverte, c'est cette voiture,
ah oui.
Cette espèce de véhicule dans lequel il se déplace à trois roues. Qui est évidemment un hommage à la voiture de Monsieur Hulot dans les vacances de Monsieur Hulot.
C'est un Monsieur Hulot bis, oui, c'est sûr.
La pause musicale, Louis-Marie, si vous voulez l'introduire, parce que c'est vous qui l'avez choisi.
Eh bien, c'est Henri Mancini qui était le compositeur attitré pratiquement de Blake Edwards. C'est lui qui a composé le fameux thème de La Panthère Rose, qui avait écrit aussi le thème de ce film, La Partie. Et comme le personnage de Bakshi est un acteur indien, c'est pour ça qu'on entend du sitar au début.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est pour rappel l'émission Vivante Église de ce matin, émission cinéma, première donc d'une série de quatre, alors que ce deuxième confinement a commencé. On va vous accompagner pour vous aider à vous évader et à voir la vie autrement, car la vie reste belle en dépit des circonstances. Deuxième film, c'est donc La Belle Équipe de Julien Devivier, Duvivier. On va écouter tout de suite la bande-annonce.
Mes copains et moi, on restera, vous comprenez? Vous croyez que je vais rester le retard? Vous hébergez à l'œil?
Vous ne payez rien!
On est chômeurs!
Qu'est-ce que tu vas faire?
Je ne sais pas, je n'ai plus un sou.
Tu vas rester avec nous.
Dis donc, mon Dieu, la loterie nationale, hein? On a gagné!
Oh, bon Dieu, quoi?
On a gagné 100 000 balles!
Notre dixième est sorti à la loterie!
Sans blague.
20 000 balles chacun!
Va chercher du mousseux de renfort!
Il a gagné 20 000 balles, mon pote de Blariche!
Oh, c'est merveilleux! Avec toi, tout s'arrange toujours.
On veut tous la même chose. La liberté, si on reste unis, on en aura 100.
À 5, on sera plus fort.
Alors, c'est entendu? De l'eau, un potager, et puis une petite maison au milieu.
Hé,
les gars!
Dis, y a de quoi faire un restaurant?
Non, mon pote, moi je sais ce qu'on va faire. On va faire une guinguette. Il y aura de la musique, de la gaieté et de l'amour.
On va construire une guinguette et puis on va la construire nous-mêmes.
Ça sera gay, hein? On est chez nous?
Allez. Un coin pour les amoureux, les sportifs et les pêcheurs à la ligue. Le paradis qui vit pinçon et l'Eldorado des chevaliers de la Gaule.
La Belle Équipe de Julien Duvivier, c'est donc, on va dire, c'est la bande-annonce donc de ce film. Cinq ouvriers chômeurs parisiens, Jean, Charles, Raymond, Jacques et Mario, un étranger menacé d'expulsion, gagnent le gros lot de la loterie nationale. Jean a l'idée de placer cet argent en commun dans l'achat d'un vieux lavoir de banlieue en ruine. Et la suite, vous l'avez deviné, on va pas dire toute l'histoire. Allez, on change. Paul, qu'est-ce que vous rajouteriez sans tout déflorer du film?
Alors, c'est sans tout déflorer, c'est un film qui part sur une belle histoire d'amitié qui se concrétise par le projet commun de plutôt que chacun parte avec ses 20 000 francs. Je crois que c'est.
Oui, puisqu'ils ont gagné 100 000. Chacun.
100 000, c'est
ça. J'ai pas fait le calcul avant l'émission, mais,
c'est ça. Ça fait
20 000 francs. 20 000 francs chacun, et ils disent mais c'est n'importe quoi. Mettons-nous ensemble et avec 100 000 francs, on peut faire quelque chose. Et il y a une espèce d'union sacrée, là. Et ils retroussent leurs manches, ils visitent et ils restaurent, vous le disiez dans la présentation, un vieux moulin pour en faire une guinguette qui s'appellera chez nous, au bord de l'eau. Voilà, alors ils retroussent leurs manches, ils reconstruisent la maison, ils donnent de même parce qu'un soir d'orage, ils sont obligés de se coucher sur le toit pour que toutes les tuiles ne fichent pas le camp et que leur projet tombe à l'eau, si j'ose dire, avec un mauvais jeu de mots. Et voilà, ils arrivent au moment de l'inauguration de cette guinguette où ils invitent, même en pré-inauguration, les proches, les amis, etc. Mais l'histoire va être plus compliquée que leur beau rêve initial.
Les ennuis, le destin s'acharne.
Le destin s'acharne. Alors, pour plusieurs raisons, il y a un immigré espagnol qui est recherché par la police et qui
Mario,
doit
donc.
Partir, Mario, et ça se passe bien pour lui, pour le groupe, parce qu'il savait qu'il devait être expulsé, et il part, mais pas tout seul, avec l'ami qu'il a rencontré, et sous la bénédiction de la grand-mère de cette jeune femme. Donc, c'est très bien, c'est assumé. Mais... entre-temps, il y a eu la présence de la femme...
Jean.
Oui, qui est séparée de son mari depuis des années et qui vient le trouver pour avoir un peu, comme ils étaient mariés, sa part du magot. Et son mari, qui est un faible, lui dit non, mais fait oui. Bon, en se cachant des autres. Et les autres le découvrent un moment. Et à ce moment-là, Jean, qui est joué magnifiquement par Jean Gabin, dit « Moi, je vais arranger la chose ». Et en fait, il se fait séduire, il se laisse séduire par cette femme, sans rien dire, évidemment, à son copain. Et ça va être le début de relations compliquées, cachées, plus ou moins révélées. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant, mais on sent que derrière... Alors là, il y a la vision du Vivier, à la fois l'hymne à l'amitié,
le réalisateur.
Tout ça, oui, le réalisateur, et puis en même temps un pessimisme assez profond sur l'ambiguïté des relations humaines.
Alors, Louis-Marie, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, vous pouvez nous parler un peu plus de ce réalisateur. Donc, c'est un film qui est sorti en 1936.
Oui, en 36, rappelez-vous l'histoire, le Front populaire, et c'est ce qu'on sent. Hein, on respire à plein poumon dans.
C'est la banlieue, quoi. C'est banlieue parisienne, ou
oui,
c'est...
bah ouais. on est, c'est les guinguettes, oui, c'est les guinguettes de nos gens sur Marne. Hein. Donc c'est les guinguettes au bord de l'eau. On va entendre.
Qu'existe toujours
la fameuse chanson.
Ouais. La fameuse chanson. Et Duvivier, de toute façon, a la réputation d'avoir toujours été un auteur fort et rarement drôle. Il n'a jamais fait, oui. Il a jamais fait dans la comédie. Et chez Duvivier, c'est compliqué. Et dans un film comme celui-ci, là, où malgré les liens d'amitié très forts, la collectivité se dissout. Elle se dissout sans espoir. C'est ce qui est terrible.
D'autres grands films de Duvivier, vous pouvez les citer peut-être pour ceux qui...
Et ben alors là, vous me posez une colle parce que j'ai pas noté. Effectivement.
C'est pas grave. Le petit monde de Don Camillo, ai-je lu, non ? Le retour de Don Camillo,
oui,
ça c'est sur la fin ?
Oui, c'est certes. Il fallait bien manger.
Pepe Moko, la bande des rats.
Oh, pardon. La bande des rats. Et j'oubliais Panique. Ah, panique, oui. Voilà, il y a Panique. Le grand Panique. Et là, donc, il montre quelque chose de l'amitié amoureuse qui a peu d'équivalent. L'amitié amoureuse dans une bande de copains, hein, c'est ça. Une communauté joyeuse qui se bagarre, qui se bataille, pardon, pour arriver. Elle est guerrière. Le drapeau, Paul le disait, planté sur la guinguette, la teste. Et puis, mais le film aussi est pas très sympathique, c'est le moins qu'on puisse dire, avec les femmes. Hein. L'image des femmes dans le film, hein, soit ce sont des garces dangereuses, hein, Gina, soit des ménagères nourricières. Entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose.
Vous avez l'air de dire qu'il y avait une exception. Vous faisiez un avec le pouce.
Oui, oui, l'ami de l'espagnol, oui. et sa grand-mère.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Chouette,
c'est vrai.
Aussi, oui.
Pourquoi c'est un beau film, Louis-Marie ?
Oh ben, c'est pour tout ce déjà dont on a parlé, et la façon dont Duvivier amène et mène son histoire, et comment on voit petit à petit qu'on va sombrer dans l'inéluctable. Et puis c'est sans doute le film en 36 qui a soi, parce qu'il tient beaucoup à ses acteurs, il repose beaucoup sur ses acteurs quand même dans le film. Il y a Jean Gabin, Charles Vanel et Viviane Romance, qui étaient de très grands acteurs. Très très grand, mais en tout cas c'est ce film-là qui assoit la notoriété de Gabin, hein, Jeannot, c'est Jeannot, hein, c'est, quand je dis la notoriété, là s'ouvre le mythe, hein. Il y a toutes les caractéristiques des personnages qu'il a interprétés, ces personnages prolétaires qu'il va trimballer dans les années 30 et 40, qui soit prolétaire chez Grémillon, chez Carnet, chez Renoir, dans La Grande Illusion, tout est là. L'ouvrier, mais qui est l'ouvrier qui se tient droit et qui a un port fier, ce qui est pratiquement un aristocrate, ouais. L'aristocrate du monde ouvrier. Et il est fort mais fragile aussi, la faiblesse, la colère, tout ça, les remords qu'il intériorise. Alors il y a le final aussi de La Belle Équipe, mais là on n'en parlera pas, c'est celui que voulait Duvivier, parce que le film était tellement sombre et noir que les producteurs ont demandé à Duvivier et Spack, qui avaient écrit le scénario, Charles Spack, de changer la fin, c'était trop noir. Et ils avaient fait une projection particulière, ce que les Américains appellent une sneak preview, comme une avant-première, en faisant voter les spectateurs pour leur demander comment, s'ils voulaient qu'on change la fin. Et ça a été à 80%, il fallait changer la fin. Mais la fin était bêtement optimiste par rapport à tout ce qui se passait dans le film. Ça ne correspondait pas beaucoup.
Pourquoi c'est un très beau film, Paul, voire un chef-d'œuvre, puisque c'était notre catégorie
Ben, comme le disait Louis-Marie, c'est aussi très très bien construit, même si on voit bien qu'il va y avoir des problèmes au fur et à mesure qu'on découvre le scénario. Il n'empêche que c'est presque toujours des scènes très fortes au point de vue investissement par les acteurs, mais aussi jeu des relations entre ces hommes, leurs projets, leur idéal, leur désir d'y arriver quand même à tout prix. Alors ils se font rouler dans la farine par un vendeur malhonnête. Donc c'est un hommage à la classe ouvrière qui... Voilà, elle gagne le pactole à la loterie, mais elle n'en fait pas n'importe quoi. Elle en fait quelque chose pour faire un lieu agréable où les familles vont pouvoir venir se détendre au bord de l'eau. Une guinguette sympathique, familiale d'une certaine façon. On sent tout un idéal des années 36 aussi, de refaire quelque chose qui rassemble, qui unit dans une certaine insouciance, allégresse. Même si l'histoire se termine mal. Ils croient à cet idéal-là, ils font tout pour que ça réussisse.
Je repensais, parce que je suis inexcusable par rapport à la filmographie du Vivier, mais en fait, on lui doit aussi Pépé le Moko, et avec un grand Gabin, mais je souscris tout à fait à ce que dit, à ce que vient de dire Paul. C'est cette façon de faire du cinéma, d'écrire et de montrer du cinéma, qui est vraiment extraordinaire et qui fait du Vivier vraiment un grand réalisateur français. Parmi les plus grands. Et je me souviens quand même que c'est une anecdote, mais pour la première.
Ne dites pas que vous l'avez interviewé.
Non. Si, on était à la maternelle ensemble. Et non, la première fois que je l'ai vu, j'étais un peu déçu parce que quand ils appellent.
Il est quand même né en 1896.
Hein, oui, il est mort en 67. Et il est. Et quand ils choisissent le nom de la guinguette. J'espérais, moi, parce que je trouvais le film formidable. Jusqu'à ce moment-là, hein, j'étais happé par le film et j'espérais qu'il appelle la guinguette La Belle Équipe. Il dit, mince, c'est chez nous. Mais ça correspond plus à chez nous, c'est bien.
Allez, on va faire une deuxième pause. On va écouter un extrait du film. C'est donc Au bord de l'eau. C'est Jean Gabin qui est à la manœuvre.
Lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, le percepteur, la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau. Quel renouveau, Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons, l'odeur des fleurs nous met tout à l'envers, et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau, je connais des gens cafardeux qui tout le temps se font des cheveux et rêvent de filer ailleurs dans un monde meilleur. Ils dépensent des tas d'oseilles pour découvrir des merveilles. Ben moi ça me fait mal au cœur, car y a pas besoin pour trouver un coin où l'on se trouve bien de chercher si loin. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau, Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons, l'odeur des fleurs nous met tout à l'envers, et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau. Au trémolo des petits oiseaux suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau.
Le grand écran, c'est le thème de l'émission Vivante Église de ce matin avec nos deux messieurs cinéma, Louis-Marie Soler, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse, et Paul Dima, intervenant pour cinéma pour les Coteaux Pays et centres jésuites dans le sud-ouest. Je ne l'ai pas dit au début de l'émission, mais ça va de soi. Le ciné-parole qu'ils animent est évidemment suspendu, on va dire ciné-dié, ou au moins on l'espère, jusqu'à début décembre. C'est avec le cinéma L'ABC à Toulouse. Dernier film, La messe est finie. C'est donc de Nanni Moretti. Alors, on va écouter la bande-annonce, mais c'est de l'italien. Alors, je précise juste aux auditeurs qu'on ne le fait pas exprès. Hein. Quand on passe des bandes-annonces en anglais ou en italien ou dans d'autres langues, c'est qu'on n'a pas trouvé autre chose parce que ça n'existe pas. On fait de notre mieux et ça va nous mettre dans l'ambiance.
Padre, guardi, inutile. Non c'è nessuno.
Non c'è nessuno?
No.
Riderai.
Sì, lui veramente ci dà molte soddisfazioni.
Ma che fate? Vi luccicano gli occhi ogni volta che parlate di lui. Ma che credete che sia il primo figlio del mondo, eh? Io non posso...
Ma mi sembra che forse tu hai dei problemi.
Dei problemi? Ma che problemi? Guarda, questa è una storia che si ripete ogni volta, sempre uguale, sempre uguale. Non è il primo figlio del mondo.
Con la tua libertà.
Voilà, c'est donc le début donc, de la bande-annonce de La messe est finie, donc de Nanni Moretti. Celui qu'on entend, c'est le personnage principal, qui est jeune, dont Guilio. Gonduilio, qui était prêtre sur une petite île, l'île de Ponza, et qui se retrouve nommé dans une paroisse de la banlieue romaine. Et là, rien ne va plus. Il arrive, et c'est le début donc, de ce teasing, de cette bande-annonce, il arrive dans une église vide. Là, on entendait deux enfants de chœur qui disent... il n'y a personne, donc la messe est finie. Et ce prêtre, découvre que dernier en activité avait fait scandale en quittant les ordres pour fonder sa propre famille. Et il s'ensuit un jeune prêtre totalement, déboussolé par la situation. Louis-Marie Soler, que diriez-vous pour compléter ?
Le film commence par un plan qui peut troubler. Un peu, on se demande à quoi on a affaire, parce que la messe est finie, le premier plan, hein, le titre, on voit vers quoi on va aller, et fait plutôt penser à un film de vacances, parce qu'on découvre ce fameux prêtre dont vous avez parlé, Giulio, qui ne porte pas la soutane là, dans ce plan, et il est un jeune homme au bord de la mer, qui en profite pour faire un plongeon rafraîchissant. Pourquoi ? Parce qu'il il a sa paroisse dans une île au sud de l'Italie, et qu'en fait, là-bas, il y est très bien. D'ailleurs, quand il quitte cette île, il quitte l'île avec le bateau des mariés qu'il vient de marier, et ils sont acclamés. En fait, celui qui est acclamé plus que les mariés eux-mêmes, c'est le prêtre qui est debout dans la barque, qui salue tout le monde, il s'en va, il est aimé, il est très bien. Et en arrivant à Rome, en espérant retrouver sa famille et ses amis, il va vite déchanter.
Alors, il déchante, et ça a l'air d'être un personnage, en tout cas quand on voit, moi j'ai pas vu le film, mais quand on voit un certain nombre d'extraits, avec un tempérament... pas toujours très très ajusté, c'est un peu le, on va dire, jeune prêtre un peu raide, c'est comme ça qu'on peut le présenter, Paul Dima.
C'est un prêtre qui est complètement désarçonné par ce qu'il découvre. C'est-à-dire qu'il arrive dans une banlieue de Rome, il passe par sa famille, qui va pas très bien non plus. Enfin, les relations, on va le découvrir au fur et à mesure du film, entre les membres de la famille, sont pour le moins compliquées. Il y a en face de son église, qui est complètement délabrée, hein, quand il arrive, c'est pas un champ de ruines, mais c'est quand même c'est inhabité depuis longtemps. Et en face de l'église habite l'ancien curé qui est marié et avec un enfant qu'il a déjà depuis plusieurs années. Et alors, tous ses amis qu'il rencontre, un poète, un libraire... il voit aussi quelqu'un qui a été dans les mouvements terroristes et emprisonné. On lui demande de venir témoigner à son procès, etc. Il est embarqué dans des histoires qu'il désarçonne complètement. Parce que tout ce à quoi il croit, en gros, voilà, c'est à côté de la plaque. Pour les gens qu'il croise ou qu'il... Alors que dans l'île où il était, sa place de prêtre, il pouvait l'exercer avec bonheur et avec proximité avec les gens et bienveillance. Et là, il se retrouve complètement décontenancé et ça le renvoie à sa solitude. Ça le renvoie à une difficulté de pouvoir écouter à plusieurs reprises où il met la radio quand quelqu'un lui parle, il renvoie parce que c'est trop dur pour lui, c'est trop dur.
Alors c'est un film qui sort en 1953, c'est la situation peut-être d'un certain nombre de prêtres aujourd'hui hein, quand ils arrivent dans la paroisse.
Non, pas 53.
Non,
87. Oui, donc on était déjà parfois un peu dedans.
Alors,
oui. Quel était le propos du réalisateur Louis-Marie Soler en faisant ce film?
Ah ben, c'est le cinquième film de Nanni Moretti. Alors, Nanni Moretti, on ne peut pas l'accuser de faire de l'anticléricalisme. Il est athée, ça il ne l'a jamais caché, mais il n'a rien à régler non plus avec la religion. Non. Donc il n'a rien à dénoncer. Ce qui l'intéresse, c'est le comportement de cet homme qui est complètement perdu, donneur de leçons. Et en fait, on va comprendre petit à petit que finalement, s'il a choisi la prêtrise, c'est peut-être pas pour la bonne raison. C'est peut-être pas pour ça. C'est par rapport à certaines situations qu'il vit dans sa famille, parce que c'est compliqué. Il espère revoir ses amis. Tous ses copains sont à la dérive. Il y en a un qui est emprisonné, hein, qui a essayé de faire un attentat, parce qu'il faut repenser qu'ils étaient militants, ils étaient communistes. Son père qui a... plus de 70 ans, a décidé de quitter sa mère pour une jeune fille de 30 ans de moins que lui. Sa sœur, elle vit une relation qui est plutôt... elle est pas houleuse. Oui. Il y a rien, il se passe rien.
Mais le propos de Nanni Moretti en faisant ce film...
Et en fait, c'est de confronter cet homme à ce qu'il ressent. Et la religion, ici, c'est... un rapport à la fidélité à l'enfance, à ce qu'il était et à ce qu'il est devenu, cet homme, et aussi au renoncement. Et il y a toute cette ambiguïté que met en avant Nanni Moretti à travers ce personnage qu'il a écrit et qu'il interprète également. Parce qu'il faut penser que dans ses films précédents, il y avait un personnage qu'il incarnait aussi, qui était une espèce de personnage récurrent. Et en fait, il est peut-être, même s'il ne porte pas le même nom, hein, jusqu'à présent, le personnage qu'on retrouve dans les films.
Michele Apicello.
Oui, c'est ça. Et là, il devient Don Giulio et il aborde donc une autre facette de la personnalité.
C'est un réalisateur qui se met souvent en scène, enfin presque dans toute son œuvre.
Il est pratiquement dans tous ses films, si ce n'est dans tous ses films. Là, on comptera.
Il y a quelque chose.
Je vais essayer de pas faire d'erreur comme pour Duvivier, oublier ses plus grandes œuvres.
Alors Paul, question difficile, mais si vous l'avez choisi, c'est que c'était catégorie chef-d'œuvre spirituel. Qu'y a-t-il de...
Il est dans un combat, voire un écartèlement spirituel, pas forcément très bien situé. C'est-à-dire que je pense que, et par rapport à ses parents, son père et sa mère et sa sœur, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été réglées, donc vraiment en place. Il regrette son enfance comme la période heureuse et bénie parce que on n'a pas de décision à prendre et on n'est pas responsable de ce qu'on fait. Donc on voit une sorte de manque de maturité et de colonne vertébrale personnelle, mais en même temps, il se sacrifie un peu de façon qu'on peut interroger, parce que pour lui, ce qui est important, c'est d'aimer tout le monde, d'accueillir, mais en même temps, plus qu'il ne peut. C'est-à-dire qu'il est tellement bousculé à l'intérieur de lui-même qu'à plusieurs reprises, il ne peut plus écouter ce que lui disent les gens. Il met son père à la porte à un moment parce qu'il vient lui annoncer que non seulement il veut se marier avec une jeune de 30 ans, mais il veut avoir un enfant d'elle. Il dit, mais bon, voilà, il le jette dehors. Il y a une jeune femme qui vient se confesser. Pour un avortement, il la met à la porte parce que voilà, il peut plus quoi, il peut plus.
Alors, ce qu'il y a de beau, c'est quoi? C'est que ça montre ça met un homme face à lui-même, ça montre la vérité d'un cœur.
C'est que il essaie de rester fidèle quand même à son engagement, même si ça va être vécu un petit peu sous forme de fuite, c'est-à-dire devant tout ça. Il rencontre un vieux moine, un vieux dominicain, un capucin. Il se confesse et il lui raconte, ce conseiller, que lui, il a été missionnaire dans le détroit, au Grand Nord, où les maisons tiennent par des pieux et des élingues en acier parce que pour résister au vent. Et la dernière scène du film, c'est qu'il célèbre un mariage et il annonce à l'assemblée, qui commence à danser dans l'église, mais c'est très beau, là, autour de l'amour, auquel lui a renoncé, et il annonce à tout le monde qu'il va partir, dans le Grand Nord.
Louis-Marie Solaire, pourquoi c'est un beau film ?
Paul Dima a dit l'essentiel, mais... C'est ça. Il va se rendre compte en revenant dans sa famille, dans le lieu où il a grandi, où il a été jeune, adolescent, jeune adulte. Et il montre, on comprend comment Guglio et la raison pour laquelle il a renoncé à ce qu'il était amené à vivre en endossant la soutane. Voilà, on le comprend. Il y a cette relation avec sa sœur qui est ambiguë, avec la discussion qu'il a avec elle, la danse. Ils dansent un moment ensemble, un slow. Et en fait, on se rend compte que l'amour qu'ils se portent l'un à l'autre, c'est pas un amour de frère et de sœur. C'est un peu plus que ça. Elle lui propose d'ailleurs de vivre ensemble. Il accepte au départ, mais il ne le fera pas. Et en fait, c'est là où il s'en va et il sait qu'il sera prêtre. C'est cette fameuse scène finale qui est finalement fondatrice où il va renoncer et il sait là pourquoi il renonce et il sait pourquoi là il va partir. Et le cheminement de cet homme est vraiment très bien amené par Nanni Moretti, et c'est là où on voit que... Parce que Moretti, il est à la fois le réalisateur, l'acteur, mais aussi le scénariste. Il a toutes les casquettes, et on se rend compte combien cet homme sait faire du cinéma et sait comment il veut raconter les histoires.
Et ben voilà, des trois films à voir. The Party, donc, c'est de Black Edwards. La Belle Équipe, c'est de Julien Duvivier. Et La Messe est finie, de Nanni Moretti. Un grand merci à vous. Et rendez-vous est donné la semaine prochaine avec vous ou avec d'autres pour essayer de nous accompagner pendant ce temps de confinement. Un grand merci à vous. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.